C'est en 1998 que Shamo paraîtra au Japon. Cette série comptera 34 tomes avec Akio Tanaka au dessin et Iso Hashimoto au scénario jusqu'à la fatidique séparation des auteurs. La licence sera d'abord éditée en 2003 chez Delcourt en 19 tomes sous le titre de Code de combat, puis elle sera mondialement interrompue en 2007 pour cause de divergences sur les droits d'auteur entre le scénariste et le mangaka. Selon Wikipédia, courant 2008, Akio Tanaka intente un procès à Iso Hashimoto au sujet des droits d'auteur de la série. Il affirme qu'Iso Hashimoto ne lui a donné qu'une grossière ébauche de l'histoire et qu'il a dû se débrouiller tout seul pour les détails et les personnages. Il réclamera 150 millions de yens de dédommagement. On parle d'un peu plus d'un million d'euros. Toujours d'après Wikipédia, ça se situerait au niveau du tome 25. Comme je vous le dirai plus tard, je constate que quelque chose cloche plutôt à partir du tome 22. Cette interruption d'exploitation des droits au Japon, mais notamment à l'étranger, aura porté un sacré préjudice à l'œuvre, qui semblait avoir d'ailleurs trouvé son public en France. C'est en 2012 que reprendra la licence avec des jaquettes retravaillées pour la réédition des premiers tomes, raccord avec la sortie du tant attendu tome 20. À travers Coq de combat, on découvrait un titre qui sortait des sentiers battus en nous proposant de nous attacher à un des personnages les plus clivants du manga game qui évolue dans un monde que l'on pourrait qualifier d'underground. Peut-être l'anti-héros le plus marquant de ces dernières décennies de par son nihilisme. Dominique Verret et Akata sont ceux qui ont acquis les droits d'exploitation de cette licence pour Delcourt afin qu'il l'intègre à son catalogue. Pour Dominique, ce fut une grande fierté de proposer un titre comme on n'avait encore jamais lu. En 2003, Shamo est nommé pour le prix de la culture Osamu Tezuka, puis il est nommé pour le prix de la meilleure série au Festival d'Angoulême en 2005. L'histoire. Ryo Narushima, 16 ans, tue ses parents à coups de couteau, épargnant sa sœur, témoin du carnage. Arrêté pour parricide, il se retrouve en maison de correction où il subit les pires humiliations. C'est au contact d'un autre prisonnier condamné à la perpétuité qu'il apprendra à se défendre et à survivre grâce au karaté. Je vous avertis de suite que ce manga de baston va casser des bouches, et pas que des bouches. Les scènes de baston seront frappantes de réalisme en nous représentant des mouvements finalement assez figés mais qui n'enlèveront rien à l'intensité des combats qui se révéleront la plupart du temps sans pitié. Le karaté Banryukai va prendre une place importante dans le récit permettant à Ryo Narushima de se faire une place d'abord en marge de la société puis sous les feux des projecteurs. Plutôt que de vous parler de la portée satirique de l'œuvre sur la société japonaise mais pas que, sur la société moderne et, par exemple, sur son rapport à l'éducation contrariée des enfants. Mais aussi à travers le contexte social de la violence. Cela va de la vie carcérale pour mineurs, aux arts martiaux spectacles et aux dérives d'un monde underground. Une analyse que fera très bien les critiques sur le net si vous êtes curieux. De mon côté, je voudrais m'attarder sur un autre aspect du récit plus personnel, plus psychologique. La folie amoureuse. Oui, il est d'abord question de parricide et de maison de correction, puis de karaté et de MMA, mais il est surtout question de vice. Une vie en marge de la société et dont la violence est le quotidien. Et pourtant, après une seconde relecture de l'œuvre, je vois en Shamo un hymne à l'amour. Lorsque nous parlons d'amour, il est souvent question de recherche et de reconnaissance. La citation la plus célèbre sur « chercher l'amour » est « ta tâche est de ne pas chercher l'amour, mais simplement de chercher et trouver tous les obstacles que tu as construits contre l'amour. » Signé Jalal al-Din Rumi. Une citation qui, je trouve, se marie avec justesse à notre anti-héros. Chez Dostoïevski, le meurtre, et a fortiori le parricide, est l'acte le plus terrible que peut réaliser l'être humain. Il exprime la volonté de domination de l'homme sur son créateur, sur Dieu même. Toutefois, le meurtre du père ne semble pas ancré dans le carcan oedipien, mais répondre plutôt à une logique sacrificielle, reflétant une haine supposée fondée contre le soi-disant fautif et responsable des tourments du personnage. Dans le cas de Ryo, cela s'applique à ses deux parents. Le fait de ne pas avoir tué sa sœur peut donner à cet acte de parricide une connotation incestueuse, peut-il ainsi aimer sa sœur sans le jugement moral de leurs parents ? Bon, pour le coup, là je vais loin. Souvent je me suis posé la question au cours de ma lecture, mais pourquoi a-t-il tué ses parents ? Car la question se pose, c'est même la base de tout le manga, j'ai envie de dire. Aussi efficace que soit l'illustration d'un enfant retrouvant son père pendu et boxant son cadavre, illustration que l'on peut retrouver dès les premières pages de Rikudo, là on est plutôt face à un vrai problème de société. La pression sociale des parents poussant leur enfant à faire partie de l'élite en lui privant de son libre arbitre ne me convainc pas forcément, mais parce que cette situation m'est étrangère. Alors je ne dois pas oublier qu'en Asie, au Japon en particulier, ces pressions sociales sont bien plus courantes et certainement plus nocives qu'elles n'y paraissent. Le truc, c'est que j'ai du mal à définir la culpabilité de Ryo d'avoir tué ses parents ou d'avoir ruiné la vie de sa sœur. Je vois en Ryo un terrain psychotique, ce qui souvent permet d'expliquer l'inexplicable. L'amour est souvent lié à la folie. Est-ce que la pression sociale que lui a infligée ses parents pour faire partie de l'élite est une cause suffisante pour qu'il en vienne à tuer ses parents qui, pour le coup, j'en suis sûr, l'aimaient? Il y a donc certainement un terrain psychotique, ce qui nous amène à penser qu'une maison de correction est-il le bon endroit pour incarcérer ce mineur. Vous me direz qu'au Japon, on ne traite pas la folie ou on ne la reconnaît pas comme en France. Mais soyons honnêtes, la majorité des personnes incarcérées en France ont aussi des troubles psychotiques. L'un dans l'autre, être entouré de criminels ou de personnes atteintes de délires psychotiques n'est évidemment pas l'environnement idéal pour une réinsertion. Dans le cas de Ryo, cet enfant de bonne famille, promis un bel avenir, incarcéré pour parricide avec d'autres délinquants, prêt à lui faire subir les pires atrocités, va le pousser dans ses retranchements. Et la rencontre avec un homme expert en karaté, condamné à la perpétuité, sera l'élément déclencheur qui donnera à Ryo les armes pour devenir un anti-héros prêt à tout, les coups bas, pour survivre. Mais pourquoi est-ce que je parle d'amour ? Alors, je ne parle pas d'amour avec un grand A, au sens romantique, mais d'amour sous toutes ses formes. Et elles sont variées. On peut parler d'amour fraternel, paternel, d'amitié ou bien d'amour de soi, ainsi que ses dérives que sont la jalousie, la possessivité, jusqu'à l'amour morbide et le désir d'être haï à défaut d'être aimé. Y a-t-il plus universel que l'amour ? La peur, peut-être. Car Ryo a peur. La peur est un instinct de survie. Même s'il a tué ses parents, Ryo a peur de mourir et il s'accroche à la vie comme tout être vivant, cela va du mammifère, de l'oiseau à l'insecte, jusqu'aux parasites et même aux virus qui tenteront par tous les moyens de se multiplier pour ne pas disparaître. Par contre, si Ryo a un instinct animal, il n'a jamais laissé transparaître le désir de procréer ou de se multiplier en laissant derrière lui une progéniture. Ryo sera défini comme un monstre et un prédateur car il aura tué ses parents et il cassera des bouches à chaque coin de rue et il gâchera la vie de ses adversaires à l'aide de vils coups bas et de personnes innocentes. Il ne se privera pas de violer et de frapper des femmes. Son rapport aux femmes et à l'amour sera perverti de prime abord en se prostituant pour de vieilles femmes riches par exemple ou en faisant le sale boulot en tant qu'homme de main pour un yakuza. Âme pervertie, ombre de mauvais augure, dieu de la destruction, tout ce qu'il touche ou tout ce qui l'entoure subit son influence. On lui incombera les malheurs de chacun et il sera tout désigné comme vecteur de haine. Pourtant, il éprouvera de l'affection pour sa sœur et il sera aimé par des hommes, et de manière assez inconditionnelle. Certains seront même fascinés par lui jusqu'à s'en brûler les doigts. Il se liera d'amitié sincère avec une petite frappe qui sacrifiera un bras pour lui et qui fera le choix de prendre soin de sa sœur. Au péril de sa vie, il ne rejettera jamais l'amour que lui portent ses amis, qu'ils soient homosexuels ou pas. Déjà, on va séparer l'œuvre en 4 parties, dont une première partie, certainement la meilleure, qui va jusqu'au tome 13, qui nous compte l'avènement de Ryo et de sa confrontation avec le digne représentant du Banryukai en la personne de Naoto Sugawara, qui est son parfait opposé et qui lui renverra ce qu'il aurait pu être ou ce qu'il aurait aimé être dans d'autres circonstances. Ainsi, Ryo le harcèlera pour que ce dernier accepte de le combattre, et ce, malgré la différence de technique, mais aussi de gabarit. La frontière entre l'amour et la haine est fine. Aimer, ou le désir d'être aimé, peut être associé à un trouble délirant. L'érotomane projette son amour sur l'autre, parfois sur une célébrité. La fixation que Ryo a envers Sugawara semble être une projection délirante. Devant cet antipode pour qui tout réussit, pourquoi lui et pas moi ? Si je ne peux pas accéder à ton monde, alors je t'entraînerai dans le mien en te retirant tout ce que tu possèdes. Voilà les pensées délirantes qui peuvent lui incomber. Y a-t-il plus blessant que d'être ignoré par la personne dont on cherche à attirer l'attention ? Il n'en fallait pas plus pour pousser notre amoureux transi au crime de lèse-majesté qui est celui de violer la femme de l'autre en faisant bien garde que cela se sache. L'amour morbide, c'est aussi s'accaparer le corps d'autrui sous la contrainte comme on a par le passé possédé son propre corps au sens propre comme au figuré. Une seconde partie, très étrange, du tome 14 à 7 qui se situe juste après l'ultime combat entre Naoto et Ryo, se passe en Chine où il s'engage dans des combats clandestins. Très vite, il se retrouvera embrigadé dans une histoire de kung-fu à mille lieues de ce que proposait la première partie de la série. Il apprendra de nouvelles techniques assez virevoltantes, mais ce qui est étrange, c'est qu'on n'y fera jamais notion dans les prochains arcs, comme si cette partie n'avait jamais existé. Pour ma part, je le vois comme un délire du héros, genre un bad trip, qui après avoir usé de substances illicites assez importantes pour pouvoir défier Sugawara, a dû en payer le prix. L'illustration de fin d'arc est assez parlante, il a pris un coup de vieux, mais surtout, il a maigri, on dirait un zombie. D'ailleurs, tous les événements nous rappellent les films de Kung-Fu. Alors, ce n'est pas un mauvais arc, juste qu'il n'a aucun intérêt, ni aucun impact dans la suite des événements. Par contre, il traite toujours d'amour. D'un amour filial entre un maître en arts martiaux et son disciple, et du rejet de ce dernier par son maître, mais aussi par la fille qu'il aime. Ryo sera instrumentalisé dans ce conflit, mais il sera aussi le témoin tragique de cette déception qui s'est muée en haine. Une troisième partie, qui nous prend de nouveau à contre-pied dans sa narration, celle-ci marque l'apparition de Thomas, à partir du tome 17, un célèbre et talentueux danseur étoile, et dont le charisme illumine chaque personne qui pose un regard sur lui. Il est, par symbolisme, le parfait antagoniste à Ryo, qui lui est entouré d'une aura sombre appelant au chaos. On suivra donc Thomas, subjugué par Ryo, lors de son combat contre Sugawara, et il fera tout pour l'atteindre jusqu'à intégrer le monde des arts martiaux afin de faire face à ce spectre qui appelle à le rejoindre dans son monde. De nouveau, on a l'impression d'avoir affaire à un personnage à la pathologie psychotique qui fait cas de l'érotomanie, de Thomas envers Ryo. Comme quoi, on n'est jamais à l'abri d'un retour de bâton. Sauf que l'approche de Thomas est plus idéaliste, plus symbolique. Il y a comme cette attraction où les opposés s'attirent, cette dualité que l'on peut retrouver entre l'homme et la femme. Et si la lumière se confrontait au chaos, qu'en ressortirait-il ? Chez l'un comme chez l'autre. Les incohérences. Le truc, c'est que le récit devient décousu. Au tome 19, Thomas sera entouré de combattants qui feront équipe avec lui afin de défier le karaté Banrui Kai. Des combattants qui finiront par lui enseigner leur art martial, ça ira du judo, à la samba, à une forme de l'aïkido, jusqu'au jujitsu. Élément assez déroutant, c'est que ce dernier combattant, maîtrisant le jujitsu brésilien, changera totalement de caractère design au tome 23. Il apparaît d'abord petit et fougueux, ressemblant d'ailleurs beaucoup à Ryo, dans sa dégaine. C'est d'ailleurs peut-être ce qui a posé le problème, car il réapparaîtra lors des combats par équipe sous les traits d'un grand Brésilien à la pommade avec un tatouage sur le corps. Lors des tomes 20 et 21, Ryo se retrouve à deux reprises face à un Naoto Sugiwara méconnaissable. On a l'impression que des scènes sont réécrites, d'autant plus clairement que la scène où le président du Banryukai paye Ryo pour participer au cross-tournoi. Scène qui se répète dans les tomes 20 et 22. Fait assez étrange, cette redondance des scènes marque bien pour moi la séparation des auteurs au tome 22. Fait pas anodin, qui expliquerait ces nombreuses incohérences dans le récit et qui gâche un peu la fête, bien que Wikipédia parle du tome 25. Mon avis est que l'idée de corriger tous ces détails lors d'un reboot ne serait pas frauduleux, mais est-ce que c'est légalement possible ? Par la suite, le tournoi est très intéressant, mais les protagonistes passent vite aux oubliettes une fois les combats achevés. Il y a comme un goût d'inachevé pour se concentrer sur le combat final qui oppose Thomas et Ryo. Fin de l'arc, on passe à la dernière partie, peut-être la plus controversée, tellement les antagonistes nous paraissent tout pétés en comparaison à ce qu'a traversé notre anti-héros préféré. Par contre, on sent que l'auteur cherche à coïncider certains éléments des différentes parties avec un Ryo égal à lui-même, mais qui aura peut-être été touché par la lumière de Thomas. On sent que les derniers événements sont derrière lui, mais que son destin le rattrape. et contre l'avis de tous, je suis plutôt satisfait de la fin en soi. Voilà, bien qu'on ne retrouvera jamais la puissance des 13 premiers tomes de l'œuvre. Conclusion, comme je vous l'ai dit à travers les différentes parties de la licence, les 13 premiers tomes, c'est un chef-d'œuvre absolu. Par la suite, ce n'est pas un mauvais manga, c'est juste qu'il y a certaines petites incohérences qui viennent un peu troubler la fête. Mais en soi, ça reste un plaisir de pouvoir suivre la série à travers les 34 tomes. Je crois qu'il y a quand même quelques difficultés à se procurer la série aujourd'hui, bien qu'elle a été rééditée il y a pas longtemps. Dans le pire des cas, vous pouvez trouver facilement les 19 premiers tomes avec l'ancienne édition. Et le plus simple, ce serait de vous procurer la licence en numérique. Elle est disponible en numérique, donc faites-vous plaisir. Je ne vous cache pas que ça me ferait plaisir de récupérer au moins les 13 premiers tomes de la dernière édition pour habiller ma mangathèque. Les autres œuvres d'Akio Tanaka en France. Il y a Glaucos, édité en 2006 chez Glénat, qui est fini en 4 tomes, dont le topo, c'est que porté par un dauphin que Cissé a été recueilli alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Pour trouver les réponses à ces questions, il décide de devenir plongeur en apnée grâce au conseil et à l'entraînement de Claude, un ancien champion aujourd'hui à la retraite. Il y a également eu Tokyo Reverse Age, édité en 2014 chez Delcourt, mais abandonné au bout de 5 tomes en France, alors qu'il y a 10 tomes encore en cours. C'est ce que j'ai lu, mais je suis pas sûr, au Japon. Alors, je vous fais le petit topo. Les trois détectives privés de l'agence Okawabata sont toujours prêts à résoudre les affaires les plus délicates. De la légende urbaine à la rumeur, rien ne résiste à leurs investigations et à leur flair. Seul hic, ils sont toujours plongés au cœur d'enquêtes très particulières, à croire qu'ils le font exprès. Voilà. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Elle s'adressait plus particulièrement à des personnes qui ont déjà lu la série. Ça n'empêche que même si j'ai spoilé certains éléments du récit, ça ne portera pas préjudice à votre lecture. Sur ce, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à découvrir le titre. Faites-vous plaisir et je vous dis à bientôt. Ciao !